היום יום כף א' לחודש אלול, שיעור במכון מאיר בנושא התשובה. סיפור מנדיד. טוב, alors on a expliqué qu'en réalité le retour, la teshuva, peut s'opérer sur plusieurs niveaux. Et le Rambam, dans l'Inkho Tshuva pour Père et Sizaï, nous dit qu'il n'y a rien de plus sûr que la Tshuva. Il donne une preuve, il dit qu'à la fin des temps, la Torah a promis, je relis le passage en grâce, qu'il y avait ici la Torah, c'est sauf Israël, à sauf Tshuva, de sauf Galutam. Le Rambam nous dit que la Torah a promis qu'à la fin de l'exil, Israël fait Tshuva, ou Miyad Hem Nidalim, et tout de suite ils seront délivrés. Shenema, comme il est écrit, alors c'est ce qui est intéressant, c'est de savoir comment il a compris la Géoula, comment il a compris la Tshuva, parce que le verset qui va rapporter pour renforcer ses paroles, ça va être le verset qui va nous faire comprendre qu'est-ce que le Rambam a compris de la Tshuva. On pourrait amener n'importe quel sujet, n'importe quel verset de la Torah, mais ça c'est le plus intéressant, c'est cette partie-là. והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והפללה, donc le Rambam cite le verset, dans Dvarim, chapitre 30, quand toutes ces choses-là vont venir sur toi, la bénédiction et son inverse, אשר נתתי לפניך, que j'ai mis, j'ai placé devant toi, והשבותה אל לבביך, et que tu vas amener ce degré au niveau de ton cœur, בכל הגויים אשר הדיחך השם אלוהיך שמה, parmi tous les peuples où Dieu t'a éparpillé, t'a délaissé, ושבת עד השם אלוהיך, voici la Tshuva, ושבת, tu reviendras jusqu'à l'éternel ton Dieu. Alors, tout à l'heure, on va s'attarder un petit peu sur ce passage-là, mais pour l'instant, c'est ça qui est intéressant, ושבת השם אלוהיך את שבותך, Dieu reviendra. Et Tshuva, comment vous traduisez Et Tshuva? Non, Et Tshuva. Et en hébreu, c'est avec. Avec ton retour. Ok? Ou ta réponse, peu importe. Avec ta Tshuva. Ok? Oui, tu peux le placer comme ça. La plupart de Et dans la Torah, c'est avec. Ok? Par exemple, je vais aller à. Ok? אל שמות בני ישראל הבאים מצרימה. כן? את יעקב איש וביתו באו. מה זה את יעקב? עם יעקב. אבק יעקב. נוק לאת אישי ודיר אבק. אלו, שתחיל לפחתו. כפי לתתחיל, ושב השם אלוהיך. תחדיז למוע. ושב השם אלוהיך. Non, Dieu reviendra. Dieu reviendra et se voudra avec ton retour. Ah, il est pas mort. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Dieu revient? Hein? La même chose, mais qu'est-ce que ça veut dire que Dieu revient? Il est où? Il est parti, il est où? En exil. Il est en exil, il est en retrait, il est en Kintoum. Il est en son. La lame de qui? L'âme de Dieu? La Nessama de qui? Non, ça j'ai compris. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Dieu revient? La Torah dit quelque chose d'incroyable ici.
Il résidera parmi
le. Alors ça veut dire qu'il est où pour l'instant?
Il est parti
dans le monde. Et lorsque la Shekhina, qui en réalité la présence divine, est obligée d'aller en exil avec Israël, quand Israël revient de son exil, Dieu revient avec les exilés. C'est ça que ça veut dire. Incroyable. Donc, Veshav Hashem Elohecha et Tshuvutcha, Verichanecha. Et il te pardonnera, il sera miséricordieux avec toi. Ça veut dire ça. On va voir tout de suite. On va voir Rashi. Okay. Non. À chaque fois que l'homme revient, on va voir tout de suite. Tout
ça.
Exactement. Ça veut dire qu'il y a une présence divine qui, à cause de l'exil de l'homme, Dieu lui-même est exilé. Et quand l'homme prend conscience de son exil et qu'il revient sur sa terre, il ramène avec lui une partie de sa celle divine. Exactement, ça va dévoiler le divin. Donc, mais ça, de qui baissera, donc la Torah continue, elle appuie sur le sujet. Vesav, il reviendra, encore une fois, Vekibetra Mikola Amin, pour te rassembler de tous les peuples, Asher et Sitra Hashem El Oech Hashama, qu'il t'aura éparpillé parmi ces nations-là, Veviacha Hashem El Oech El Aare, et il te ramènera toujours Hashem El Oech, l'Éternel ton Dieu, qu'on en traduit en français, qui est une erreur grossière, mais on va voir tout à l'heure, El Aare, il te ramènera vers la terre, Asher Yarsu Avotecha, que tes pères ont hérité, et toi-même tu l'hériteras maintenant. Il te fera du bien et il te multipliera encore plus que tes pères. Et donc Dieu fera une brit mila, une mila, et éclairera selon ton niveau du cœur, cette fois-ci, et les vases d'Arafa et dans le cœur de tes enfants. Regardez, à partir du mot « et », vous prenez les initiales « et » les « vafra » « v'et » les « vav » et « l'ul ». Yes ?« Et » les « vafra » « v'et » les « vav ». Vous voyez le « l'ul » qui se cache ? Donc « Uma l'Hashem Elohecha »« Et » les « vafra » « v'et » les « vav » d'Aracha. Vous n'avez pas trouvé ? Hein, ça représente Elul, que le mois de Elul, en fait, on subit et un nettoyage au niveau de notre cœur. D'accord ? Ce sont des initiales qui se cachent à l'intérieur du mot. Inouï. Inouï, aucun rapport avec Elul. Inouï, avec un rein. C'est bien essayé. Un jour, tu réussiras. Réjoie ta chère. Bientôt. Vous avez trouvé le Elul qui cache ? Ok. Ve'ata tashuv, et tu reviendras. Regarde combien de fois il y a le mot revenir, revenir, lui revient, toi tu reviens, tout le monde revient. Ve'shamata bekol Hashem, jusqu'à entendre la voix de Dieu. Ve'asita et kol mitzvotav, et tu appliqueras toutes ces mitzvot, Hashem anochi mitzvotav, l'homme que je t'ordonne de faire aujourd'hui. Tu tashuv, parce que tu reviendras, comme si on n'avait pas compris. Et encore une fois, tu reviendras, car tu reviendras, et la Shem Elohecha, vers l'Éternel ton Dieu. Bechol levavcha ufol nafshecha, avec tout ton cœur et de tout ton être, toute ton âme. Alors, on remarque ici plusieurs choses. D'abord, le retour qui s'opère plusieurs fois, on le remarque ici, à plusieurs reprises. Et ce qui est intéressant, c'est de revenir jusqu'à l'Éternel. Si la Torah voulait nous dire tu reviendras jusqu'à Dieu, qu'est-ce qu'elle aurait dû écrire le chapitre Ad Hashem, ça suffit, non? Pourquoi Hashem Elohecha? Qu'est-ce que ça veut dire Hashem Elohecha? L'Éternel ton Dieu, je traduis en français. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu reviendras jusqu'à ton Dieu, à l'Éternel. Pourquoi ici l'Éternel ton Dieu? Pourquoi Hashem Elohecha? Alors en réalité, il y a deux noms ici. Hashem c'est ça. Okay. Et Elohecha c'est Elohim. Donc en réalité on a deux noms, deux attributs de Dieu. Autrement dit, et là on rentre dans une partie secrète de la Torah. Jusqu'à où nous devons revenir? Oui, alors ça. Alors, pourquoi ça n'a pas marché jusqu'à Hashem, tout simplement? Parce qu'il est transcendant. Tu reviendras jusqu'à Hashem, c'est très grave. La démarche. Non, parfait. Aucun rapport avec la démarche pour l'instant. Alors justement, ça, je garde ta question, on va la voir tout de suite, juste après. Pour l'instant, je veux juste m'arrêter sur les termes de la Torah. Tu reviendras jusqu'à, et il y a deux noms. Premier nom,
Athènes, je n'ai pas le droit de marquer le marque en. D'accord ? Et le deuxième nom est l'origine. Je marque aussi avec un H. Pourquoi je dois revenir jusqu'à ça et ça, ça et ça ? J'aurais pu comprendre jusqu'ici, ou alors jusqu'ici. En réalité, il faut revenir jusqu'à faire l'union de ces deux noms. Tu ne peux pas faire autrement que de dire ces deux noms. Parce que rester souvent, ce n'est pas justement de quitter la terre. Ça, c'est le nom qui est transcendant, qui est au-delà. Ça ne suffit pas. Il faut que tu sois transcendant et immanent. Immanent, ça veut dire ici. C'est-à-dire que tu dois arriver jusqu'à un accouplement de ces deux noms de Dieu. Une relation entre le Dieu qui est au-delà de la nature, mais tu dois le découvrir où ? Dans la nature. Vous avez compris ? Donc la Torah est précise dans ces termes. Et ça fait doux, c'est extraordinaire. La Torah ne dit pas que tu reviendras jusqu'à Dieu. Exactement. Mais tu reviendras jusqu'à comprendre, en fait, la nature divine du monde. Ok ? Alors maintenant, on avance et on va répondre à ta question. Ok ? Il ne comprend pas, il a raison, il se dit, mais c'est quoi qu'un Dieu reviendra, il est partout, où il doit revenir, on ne comprend pas. Un Dieu est omniprésent, alors il doit revenir, d'où il est parti où pour revenir. Alors, voici, je m'adresse au verset, à la façon, donc je reviens sur le verset, sur ce verset-là, « Vesha vachem elohecha et tivutra » Dieu reviendra avec son retour, comme vous dites, Tatav Rashi, regardez ce que Rashi a écrit, donc je vais l'écrire en Tatav Rashi. Vous lisez Tatav Rashi ? Ça veut dire Rashi. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas ? J'ai copié le Rashi. Haya lo lichtor, il aurait dû écrire, Vesiv et Sevutra. Dieu te ramènera. Haya lo lichtor, il aurait dû écrire, Dieu te ramènera. Ça se comprend bien. Hein, toi aussi, hein? Moi j'étais en France, je suis venu ici, donc Dieu m'a ramené, j'ai bien compris. Rabotel ou l'amdoumikan, qu'est-ce que nos sages ont compris de ce verset, c'est-à-dire du fait qu'il est écrit Dieu reviendra lui-même avec ton retour, Shachrina, que la Shachrina, la présence divine, qui viachol shruya in Israël betarab ganutam. Que la présence divine se trouve avec Israël, comme si elle s'était détachée de son élément principal, qui est la terre d'Israël, sa source, et elle est éparpillée dans l'exil avec les enfants d'Israël, Betsarat Galoutam, dans l'étroitesse de leur exil. Ou Ksenig Alim, et quand ils reviennent, quand Israël sont délivrés, quand ils reviennent sur leur terre, Irtiv Geoula et Asmo. Regardez ce que dit Rashi. Il s'est prescrit, Dieu lui-même, une Géoula pour lui-même. C'est-à-dire, il a écrit, Dieu, moi-même je suis délivré. J'étais en exil et je suis en train de me délivrer. Pourquoi ? Parce que c'est un petit bonhomme de vie, avec toute sa famille, sont en train de monter dans un avion des Lales pour revenir sur la terre. Ça ne répond toujours pas à ta question, mais en avant. C'est où ? Yashuv Imahem, dira-t-il, donc ils vont revenir avec eux. Vous voyez, vous avez dit de. Je vous ai rien inventé. Rashi, les paroles de Rashi, Dieu reviendra avec Israël, parmi eux. Alors maintenant, d'abord, c'est très important. De toutes les versets de la Torah, de Nevi'im, de Ketuvim, Rambam, pour nous expliquer la Geoula et la Tshuva, il n'a rien choisi qu'un verset qui parle de quoi en fait ? Du sionisme, Rambam ne parle que d'une seule chose, là, vous remarquez, le retour d'Israël sur sa terre, c'est tout ce qui l'intéresse. Peu importe, pour l'instant, on ne parle pas de ça. Pour l'instant, les enfants d'Israël reviennent. Bien entendu, on va parler après d'identité et de royauté. Mais pour l'instant, Rambam nous dit, de tous les versets de la Torah, il y en a des milliers, des dizaines de milliers, il a trouvé un verset qui lui correspond et qui, pour lui, représente et la Géoula et la Ketouva. On est d'accord ? Incroyable ! Il aurait pu marquer dans la Torah, tu seras la Torah, les mitzvot seulement. Non, Rambam dit d'abord de revenir. Et Rashi nous dit que Dieu revient lui-même. Comme il est écrit dans la Gemara de Megillah, à la page 29. Capté. Véros, toujours Rashi, hein. Yeshlomar, on doit comprendre par là, et donc je suis obligé de le dire, dit Rashi. C'est Gadol Yom Kibbutz Galuyot. Alors là, il est carrément précis. C'est tellement important le jour du rassemblement des exilés, ou Bekoshi, en sachant très bien que ça va être difficile, et il ou vous, Atmo, comme si Dieu lui-même, Tarich Liot Ochez Beyadav, doit se tenir la main, toi, l'homme d'Israël qui se trouve aujourd'hui à Paris, Maman, véritablement, comme s'il te prenait par la main, ici, mais comment, chacun de l'endroit où il habite. Regardez, c'est un truc extraordinaire de Rashi, hein. C'est jamais vu, c'est très rare, soulignez ça.
En fait, c'est un morceau de terre d'Israël qui est en
Galou,
quoi.
Oui, c'est un morceau de divin. Incroyable. C'est un bien endroit, comme il est écrit, et là, Rashi va citer un verset de Isaïe, 27, 12. Vous allez être recueillis un par un, vous les enfants d'Israël. Ça, c'est une bombe atomique. Si vous avez un jour un tuyau à donner, vous avez un tuyau touché. C'est une merveille, une pure merveille. Rashi nous dit ici, et je traduis maintenant avec mes mots, que quand tu fais ton alia, en réalité, c'est à cause de voir pour qu'il y ait une sachet, qui a cassé chez toi, là où tu es habitué. Okay. Hein?
C'est normal,
comment c'est normal? Qu'est-ce qui est normal?
Non,
mais là, c'est pas seulement que tu as fait un choix. C'est marqué que Dieu est venu par la main, ma main, dira-t-il. Il te prend par la main. Il revient avec toi. Mais il nous au reste de la base, ma main. Tu comprends la force de Rashi là?
C'est un retour derrière, parce que les deux côtés ont fait un retour déjà pour pouvoir prendre la main qui avait besoin de ses dents,
Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans, tu as raison.
Parce que j'ai compris que déjà que les deux mains se prenaient au milieu que les deux trucs de la fille, les deux mains, c'est pas une bonne chose. Mais les deux mains sont aussi, donc déjà que ça reste sur un petit on voit que c'est la belle main et que c'est la belle main.
Alors, non seulement ça, mais en plus de ça, on se prend par la main. Est-ce que vous comprenez que le divin, l'infini, s'adresse à un petit homme de rien du tout qui est fait de matière, il le prend par la main, il s'occupe de lui. C'est-à-dire que tu as une telle proximité avec Dieu, mais comment tu as atteint ce degré? Par quel miracle tu as atteint ce degré que Dieu vient te prendre par la main?
Par l'amour que Dieu
porte. Non seulement par l'amour que Dieu te porte, ça c'est pour tout le monde. Mais là, c'est pas pour tout le monde, c'est pour celui et revient à la terre. C'est-à-dire, Dieu te manifeste ton amour par un lien, par une prise de ta main, lorsque tu as décidé de revenir. C'est toi qui as décidé parce que tu as entendu, en fait, l'appel du divin qui est en toi. Qui n'ont pas entendu cet appel. Ou alors qui l'ont entendu, mais qui ne sont pas encore prêts ou capables, ou peu importe, par d'autres choses. Ils ont eu tout le monde à l'appel, c'est ça le chidouche. Tout le temps. Tout le temps. Il est écrit dans le Zohar, dans la paracha de Lech Lecha. Vous avez entendu une fois le Lech Lecha qu'Abraham a entendu. Ken Lech Lecha, Mer Lecha, Mimola Vetecha, Betavicha, Elaha, Vetachera, Eta. Va-t'en du pays où tu es né, de la maison de ton père, et ainsi de suite. Alors le Zohar nous pose la question, bah ouais, mais Abraham, c'est un grand. Lui, il a entendu. Et lorsqu'il a entendu, il a pris ses valises, il est parti. Il dit le Zohar, non, t'as rien compris. Dieu donne ce message tout le temps, à chaque instant, à tout le monde. Il y a une voix céleste qui dit, à chaque instant dans le monde, Lech Lecha. Abraham, il s'est tellement nettoyé, il est monté au niveau d'entendre. Mais toi, si tu fais le même travail, tu vas entendre aussi. Donc en réalité, ça dépend de toi, dans quel niveau de conscience tu te trouves pour être capable d'avoir l'écoute de l'émission divine qui est en fait émise constamment, continuellement. Il y a une radio, 100 FM, qui est Radio Dieu, et 26 FM, comme vous voulez, et il y a marqué tout le temps, l'Echlecha, c'est l'émission. Est-ce que tu entends cette émission? Oui ou non? Ça dépend de toi. Ça répond à ta question? Bien, tu peux fermer la porte, s'il te plaît. Merci. Non, parce que Lubavitch développe une théorie qui dit que toi tu n'as pas besoin de faire le travail par toi-même, Dieu le jour où il décidera. Ça rejoint un petit peu la cita de sa mère. Que lorsque Dieu décidera, il se ramènera lui-même. Tu n'as pas d'effort à faire. Et le jour où le Messie viendra, alors Dieu nous ramènera. Et là, on voit autre chose. On voit que la Teshuva, c'est une prise de conscience et c'est difficile le kibbout du Galouyot, nous dira-t-il. Ça veut dire que les choses ne vont pas être très claires comme il se l'a dit. Donc regardez, je vous cite encore. Gadol Yom Kibbout Galouyot Ubekoshi. Pourquoi ça va être difficile si c'est la Géoula? Ça ne va pas être difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que ce n'est pas encore clair justement quand ça va se passer. Quand toi tu es revenu ici, ce n'est pas clair du tout que c'est Dieu qui t'a pris par la main. Et là donc, Rashi nous révèle un grand secret. C'est Dieu qui te prend par la main, et non seulement toi tu reviens, mais tu fais revenir avec toi Dieu. En réalité, qui prend qui par la main? Les deux. Okay? Exactement. C'est-à-dire Dieu te ramène, mais toi tu le ramènes aussi, tu le ramènes toi aussi. Donc il y a ici quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Tu retrouves en fait le divin qui est en toi. Tu reviens avec ce divin. Et le divin t'aide lui aussi et renforce ta prise de confiance et ton retour. Extraordinaire, exponentiel. Il y a un fidouce ici, extraordinaire. Donc qui nous donne ce fidouce? Rashi. Il nous dit que ça va être difficile le retour. Ça veut dire prendre la décision de revenir, ça va être difficile, ou décrocher.
C'est très dur de prendre la décision de revenir.
C'est pas seulement de n'importe quel pays. Justement, si bout de Galouyot pour le juif de revenir sur sa terre après le juif.
C'est comment dire, une action qui est
pas évidente. Il faut que
tu de faire le pas.
Alors, si c'était comme la cita de ton copain, ça aurait été en bloc, en masse. Or, regarde ce que Rashi cite comme fin de verset dans Isaïe. Vatem tenuktu l'echad echad. Vous allez être pris un par un. Ça va être difficile. Celui-là, il va faire son alia. L'autre, pas encore. C'est pas évident. Donc, tu vois que ça correspond à notre époque aujourd'hui. Et pas attendre que je ne sais quel miracle va nous ramener sur des miracles. Le Kadosh Baruch Hu ne change pas l'ordre de la nature. On n'est pas dans Aladdin avec des tapis volants. La réalité, tout simplement, c'est un avion. C'est un avion. Le dos des ailes, c'est un avion. C'est un mitzvah. Quel descendra du ciel. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une marque loquée. Est-ce que le Bétanidèque descendra du ciel? Les Chachamim nous disent que le Bétanidèque sera construit par les hommes, même le dernier, et à l'intérieur de la construction descendra le Bétanidèque de feu. Dans le Bétanidèque. Exactement, tout simplement. C'est comme l'âme. Est-ce que tu as déjà vu une âme descendre dans un bébé? Non, tu vois le bébé sortir. Le bébé, c'est le père et la mère qui l'ont fabriqué. Alors tu te dis, ouais, arrête de nous raconter des salades. Le bébé, il est venu parce que papa et maman, ils ont été ensemble. C'est exactement pareil. Papa et maman, ils ont amené un corps. Mais Kadosh Baruch Hu, au cou, c'est le troisième associé. Lui, il amènera la même chemin. Comme dans le bébé, comme dans le Bétanidèque. Vous voyez que les choses sont claires, elles deviennent de plus en plus précises. Alors, pour répondre à la question juste un petit peu à ce qu'il a posé comme question, mais comment ça se fait que Dieu se trouve ailleurs? Il est de partout. Et là, on ne parle pas de Dieu, on parle de la présence divine. Et il y a plus de dévoilement dans certains endroits que dans d'autres. En fait, il y a une intensité. La présence divine se trouve en Eretz Israël. Et né à Sem Elohech à Bat. Les yeux de Dieu sont en elle, sur cette terre, Mirati Kassana, du début de l'année, vers la Farid Kassana jusqu'à la fin de l'année. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas à l'ombre. Mais la vision de Dieu, il est sur la terre, elle passe par la terre d'Israël. Quand tu sors en exil, il y a une étincelle divine qui s'est coupée, entre guillemets. Donc il y a une souffrance de Dieu. Quand tu reviens en Eretz Israël, tu sauves Dieu, tu le sors exactement de sa prison. Dieu est en prison, tu le dévoiles, tu le délivres de sa prison, et donc tu crées une simcha. Et c'est pas par hasard que la parasha cette semaine a commencé par le mot Ve'aya, Kitavo, et la Haaretz. Pourquoi Ve'aya? Nous dit le Chachamim dans la Tikta Esther Rabba, chaque fois qu'il y a marqué Ve'aya, en Ve'aya et la Shon Simcha. Dès qu'il y a marqué Ve'aya dans la Torah, c'est un synonyme de joie. Et alors pourquoi il y a de la joie? Parce que Kitavo et la Haaretz. Quand tu reviens sur la terre, c'est une joie. Maintenant, tu comprends pourquoi c'est une joie. Parce que Dieu même lui revient, et toi tu reviens. Vous revenez tous les deux. Voilà. Tu avais une question. Pourquoi tu dis ça?
Il y a
son temps, il y a la pompe de l'eau, 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 il y a la
pompe de l'eau,
il y a la pompe de l'eau, il y a la pompe de l'eau, c'est faux, c'est faux. Je comprends ce que tu veux dire, mais ça c'est des idées que les gens balancent. En réalité, c'est jamais vrai. Le libre arbitre est toujours maintenu. Il y a un équilibre, c'est-à-dire son choix est toujours le même choix. C'est-à-dire qu'à l'époque où les gens venaient en Eretz Israël et qui disaient qu'ils avaient du mérite parce que c'était plus facile, c'est pas aussi simple. Au moment où ils venaient, ils étaient poursuivis par des pogroms, donc venir pour eux en Eretz Israël, c'était aussi équilibré par rapport à leur choix. Aujourd'hui, c'est pas vrai qu'il est plus facile de vivre ici qu'en dehors d'Eretz Israël. Demande à tes copains qui sont encore en France. Ils te disent, moi je kiffe la vie, je gagne de l'argent, je roule en BMW, décapotable, qu'est-ce que tu me racontes? Toi tu es là-bas en train de trimer, tu n'as même pas un sou.
C'est déjà un revenu pour
vous? Pas pour moi. Ça veut dire que.
Pour moi, c'est une
difficulté. Je te parle de l'équilibre qui est maintenu. Ça veut dire qu'il y a autant de difficultés à choisir aujourd'hui de venir ici qu'à cette époque là-bas. Tout le temps. Aujourd'hui il y a des attentats, aujourd'hui il y a des guerres, aujourd'hui il y a des parents qui ne veulent pas que leurs enfants passent à l'armée. Okay. Donc tu vois bien, là-bas il n'y a pas l'armée, il n'y a pas la guerre, il y a une tranquillité. Personne ne klaxonne dans les voitures, c'est tranquille, c'est calme. Ça y a un antisémitisme le plus important, c'est tous les pays qui sont autour de nous qui veulent nous avaler. Okay. Alors c'est la même chose. Donc ton équilibre est maintenu et ton choix est toujours le même choix. Je vais te donner l'exemple, ta question, à quoi elle ressemble. Elle ressemble à ce que tu me dis que, ouais, quand j'étais plus jeune, j'avais plus de yotzerara. Donc c'était plus dur pour moi de choisir le bien et le mal. Aujourd'hui, je suis devenu un grand rab. Mon yotzerara, il a changé. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Pourquoi? Parce que le yotzerara grandit avec sa grandeur. Et le yetzer d'un rab, il est plus grand que le yetzer d'un sujet. Il a un yetzer correspondant à sa hauteur. C'est exactement pareil. Ton choix aujourd'hui de venir en Israël, il est maintenu, sache-le. Tu as choisi pleinement de venir. N'amenuise pas, ne diminue pas la valeur de ton choix. Donc c'est pas un cadeau. Bien.
Ah, mais comment est-ce qu'on peut dire que je vais venir la main?
Alors, c'est pour ça qu'il y a marqué Tse'ilu. Regarde, il y a marqué Tse'ilu, ou Asmo, Tarif, Liot, Ochez, Beyadav, Mama. Comme si, et c'est une image que la Torah nous donne, que Rashi nous donne, mais elle est très forte.
cette image. C'est comme si Dieu te prenait par la main. De bagage, tu vas pas sentir une main qui te prend physiquement parlant. Mais tu sens que tout ton mouvement, c'était un mouvement accompagné par le divin. C'est ça qu'il veut dire. Et là, alors, c'est vrai que tu ne vas pas mourir. Là-bas, au Mont Sinaï, c'est Kol Amro, une cacolote, c'est pas une image, c'est réel. Là-bas, les hommes ont vu les sons. Ils ont vu ce qui était audible, ils entendaient ce qui était visible. C'est-à-dire leur sens s'était mélangé. C'est pourquoi ils sont morts d'ailleurs là-bas. Pas parce qu'ils ont une peur que vous êtes en train de traduire là. Pas du tout. Tout simplement, quand on voit une telle lumière, une telle grandeur divine, qu'est-ce qu'on fait? On est aspiré, tout simplement. Donc, c'est pas parce qu'on a peur qu'on meurt. C'est parce qu'on est aspiré par la grande lumière, tout simplement. Vous croyez que quand quelqu'un quitte ce monde, pourquoi il s'en va? Quel est le phénomène qui fait en sorte que l'âme quitte le corps?
Le corps ne bat plus,
non? Non, tout simplement parce qu'on meurt à celui qui va mourir, c'est une grande lumière, la lumière divine. Et ça valide nous dit que c'est la lumière de l'âme haïtienne qui voit devant lui. Alors son âme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vers lui et elle dit: attends, je veux te rejoindre. Et donc ça quitte le corps. Tout simplement. Et c'est comme ça que jusqu'à 120 ans, l'homme quitte ce monde. Vous étiez devant quelqu'un qui était pas loin de mourir, je ne vous souhaite pas, mais moi j'ai vu des gens comme ça qui me disaient: éteignez les lumières, il y a trop de lumière dans la pièce maintenant. C'est juste un instant avant de mourir. Et je comprenais que c'était en train de partir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lumière d'Adam Harrison. C'est le petit qui dit: oh, il y a mon rat qui est là, il y a la grande lumière. Et il voit toutes les choses. Donc ça n'est pas mal de ce que attendez-moi, j'arrive. Ça s'en va. Moralité? Le goyim aussi, ils font partie de Adam Harrison. Adam Harrison, il était juif ou goy?
Oui.
Il était neuf, il était tout. Il était juif. Ken Adam Harrison, c'est l'humanité tout entière. Est-ce qu'il en pense un examen en temps? C'est les psychotes qui te fatiguent? Non, même pas. Non, moi, j'ai fait les psychotes, mais bon, toi, je ne sais pas, t'as fait? Pas mal. Pas mal. Bon. On continue. Vea la pastouk. Vea ya ki yavo ou alecha. Ah, t'avais une question, toi. Il rapporte la Gemara dans Megillah 29. Qu'est-ce que j'ai dit avant pour le point? T'as vu qu'après la parenthèse, il y a un point? C'est précis. Ok. Une bonne question. Vea la pastouk. Vea ya ki yavo ou alecha kol adevarim ha'ele. Donc, je reprends encore un des versets cités par le Rambam dans Dvarim 30. Et ce sera quand toutes ces choses-là viendront sur toi. Ve'aya, encore une fois, ve'aya, ve'aya, la Shonsimcha. Katar ba'al akil yakar zal. Un autre commentateur. Elki, ce qui s'appelle le kil yakar. Yesh le'id bonen. Il faut faire attention. Kil trila amar, qu'au départ, il a été écrit: Bechol Agoïm Asher Edichacha Hashem Elohecha Shama. Je vais te ramener de tous les Goïm, de toutes les nations que Dieu t'a délaissé là-bas. Et après il est écrit: Amar Bechol Agoïm Asher Hesitra Hashem Elohecha Shama. Que Dieu t'a éparpillé parmi ces Goïm. Donc le Kliyakar se dit: pourquoi il y a deux formulations du même terme? Au départ, il est dit « Dieu t'a délaissé » et après il est écrit « Dieu t'a éparpillé ». Alors je veux comprendre pourquoi ces deux expressions. Délaissé, éparpillé. « Yesevdel ben lachon efitra ben lachon edifacha » Et donc il y a en réalité une différence bien claire entre « efitra » qui veut dire « Ken yafutsu » Vas-y, yafutsu. Éparpillé, et la sonne est dihacha. Qu'est-ce que c'est le dihacha? Délaissé.
Alors quelle est la différence? Qui répitra les amers à la galoute. Éparpillé, ça vient parler de quoi? De l'exil, de la galoute. Mais Rabbi Chacha, Il y a fait mode, vas-y continue. Et comment elle se manque? Par quoi? Dis-moi, qu'est-ce que c'est cette présence de Dieu qui va être moindre en exil? Moins que le Beth Amikdash, plus proche de toi, plus proche de toi, plus proche de toi, la Torah. La Torah que tu vas étudier ne sera pas la même Torah. Tu ne pourras pas capter les mêmes forces. C'est exactement ce que tu es en train de dire. D'accord? Donc la Torah, elle est mitzvot. Donc, Vébichacha, regardez la deuxième partie. Dieu te délaissera, il amènera la mitzvot. Il est dit sur les mitzvot. Qui béyot Israël d'air, c'est à Amin. Pourquoi c'est dit pour les mitzvot? Dit le Kriyaka. Parce que lorsque le peuple d'Israël se trouve parmi les nations, ils sont repoussés des mitzvot elles-mêmes. Si c'est d'une part par ce qui est écrit lorsque Dieu fait des réprimandes, quelque chose d'incroyable que la Torah nous dit, que lorsque tu seras en exil, tu serviras quoi? Au lieu de servir Dieu, tu serviras quoi? Le bois et la pierre. Le monde goy, qu'est-ce que c'est le bois? La croix. Et la pierre? La pierre noire, les Arabes. L'islam. Donc la chrétienté et l'islam. Tu seras soumis au bois et à la pierre. Regardez ce qui est écrit ici, c'est extraordinaire. Hein? Faut pas t'arrêter avec ça. Ça veut dire que tu vas servir dans les nations dans lesquelles tu seras. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Qui va être dominateur? Qui va être dominant? Quelles religions vont dominer là-bas? La chrétienté et l'islam, apparemment. Donc tu vas servir
dans l'ordre.
D'abord le bois et la créature. Extraordinaire, ça. C'est un kidouche extraordinaire. Et donc, comment on peut dire une chose pareille? Est-ce que Dieu nous prédit que lorsqu'on sera en exil, automatiquement on va faire ça? Parce que c'est ce que c'est dans notre passage. Va, c'est une femme, Elohim, Achérim. Vous allez servir là-bas d'autres dieux automatiquement. Mais attends, je connais moi des rabbins qui ne servent pas d'autres dieux. Comment tu peux dire une chose pareille? Tiens, vous allez poser la même question, tiens, je l'ai posée à votre place. Alors pourquoi il nous est dit comme si c'était automatique, dès qu'il n'est plus en Israël, il te dira c'est lui-même. Il est là-bas. Il était là-bas. Alors comment? Alors regardez ce que dit le Créateur. Hem mitzad serova mitzvot kluyot ba'arim. Tu sais, parce que la plupart des mitzvot incombent et sont dépendants de la terre d'Israël. Voilà. C'est pas lui qui pose la question, c'est moi. Donc il n'y a pas à répondre. Moi je vous ai posé la question. Comment une fois pareil c'est possible? D'ailleurs, je vais vous citer un autre verset, David Amel. David Amel, il dit sur lui-même, David Amel, il parle de lui. Il dit Kigersu ni ayon, ni taper benakala tachem. On m'a renvoyé aujourd'hui d'être assis sur l'héritage de Dieu, c'est-à-dire de ma terre. Be'emor, lui, en me disant, Lech avod Elohim Achérim, va servir d'autres dieux. Qu'est-ce que dit David Amalek? En me renvoyant de la terre d'Israël, dès que je me suis retrouvé en dehors de la terre d'Israël, c'est comme s'ils étaient déjà en train de servir d'autres dieux. D'où il tire ça? On marche. C'est David Amalek qui connaissait la Gemara avant même que ça ait été. C'est quelqu'un qui dans la Gemara de Avodah Zara à la page 8 ou de Ketubot à la page 110. C'est marqué Koladar Bechut Alaharet, tout celui qui vit en dehors de sa terre, c'est la terre d'Israël, Domé, Temi, Ke'en, Lo, et Mort. Nous ressemblons à un homme qui n'a pas de Dieu, dans Ketubot aussi. Et pire encore, Koladar Bechut Alaharet, Oved Avodah Zara Betahara. Tout celui qui habite en dehors de l'Israël, pour un juif, c'est comme s'il faisait de la Avodah Zara dans la pureté. Des expressions que certains ont du mal à garder dans les Gemaraot. Des fois, ils vont mieux arracher les pages. Ça fait peur. Comment tu te mets face à une Gemara telle que celle-ci? Qu'est-ce que tu as à répondre? Objet Avodah Zara Betahara. Tu prends l'Avodah Zara dans la société. La Kafoutou, c'est les juifs, les enfants d'Israël qui sont éparpillés parmi les nations. Le Bichacha, c'est les mitzvot. Ça veut dire que les mitzvot n'ont pas plus la même valeur là-bas. Parce que la Torah est loin de l'homme. C'est plus la même lumière divine qu'il reçoit. Donc toi, tu as dit Beth Amigdash, tu as dit tout ce que tu as dit, c'est vrai. Okay? Mais tout simplement, la Torah que tu dis n'est plus la même. Et c'est pour ça que la Torah et la Gemara continuent, dit aussi, une Torah, c'est Torah qui est Israël. Tu n'as pas une Torah comme la Torah de Israël. Avira de Israël Martim, l'air de Israël rend sage. Ça s'agit là, l'homme. Et ainsi de suite, plein d'expressions. Avira de Eret Ha'amim Tamé, l'air des nations du monde est impur. Et même quand tu vas en vacances et tu vas à Venise, quand tu te rends bouché. Parce que impur, ça se traduit impur. Mais en réalité, Touma, ça me dit mot, Atum, Matum Tam. Tu deviens fermé, bouché. Quand tu reviens en Bahreïn, il faut une semaine pour te remettre dans le bain. Il y a un défaut, Nakhon. Même à Strasbourg, il y en a un. Okay. J'ai toujours pas répondu. Non, pour l'instant, je suis encore avec les clients. C'est un scandale, viens, d'accord?
Non, c'est
le terme même de ghetto vient de venir. D'accord. Ok. Alors, on n'a toujours pas répondu à cette question. Comment est-ce possible? Il faut se parler.
Bon, moi,
le travail
des gens,
c'est
pas.
Tu vois,
la
meilleure
c'est là-bas.
Nakhon, c'est toujours la même réponse qui revient. J'ai pas attendu qu'il te dise, c'est moi qui te pose la question. Non, tu vois, tu es honnête. Alors, comment? Nakhon? Il faut pas dire que c'est pas les glonies d'Israël. Alors, comment une chose pareille est possible?
Alors, tu as des glonies, on parle pas de ça. Les rabbins, les rabbins, les rabbins, c'est aussi pour que les gens ne témoignent pas du
même. D'accord. Alors, on va donner plusieurs réponses. Les réponses que eux-mêmes donnent, pour l'instant. Attends, avant les questions, je suis en train de répondre. C'est la même question.
C'est
pas
très.
Ouais, vas-y.
Par exemple, moi, je suis directeur d'une école en France.
Oui.
Et que le monde vous oublie, c'est que.
Oui.
Hein? D'accord.
Ça va, c'est infini.
Et moi, je suis toujours
en
train de couper
les gens, genre dans les cours, je suis
en train de faire des rabbinines, parler de ce monde, de revenir
en train. Tu auras plus d'affaires dans ton école. T'as peur de rester seul là-bas, c'est ça?
Non,
quoi alors, quelle est ta peur? Je comprends pas, quelle est ta peur?
C'est un arabe en religion, c'est un agent de vrai qui est lui. Quand il est là, c'est un ami qui encourage les jeunes, il a de leur âge à faire rien.
C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Si ton travail, si on m'envoie maintenant comme Salia, okay, pour 6 mois, pour 1 an, qu'est-ce que je n'ai pas envie trop de faire, mais admettons, okay, je vais parfois dans un week-end, le Rav Superman m'envoie. En séminaire dans une ville de France pour ramener 10 familles. Okay? Pour un sabbat. Sabbat, c'est vendredi, samedi, dimanche. Okay? Je reviens dimanche soir. Ça se passe comme ça généralement. Okay? Du jeudi soir au dimanche soir. Alors qu'est-ce que je fais? Non, je ne vais pas. Il faut aller. Il faut faire entendre cette voix, cette Torah qui vient d'Israël. Là, tu es en train de partir pour une mission. Si tu me dis que les gens qui sont là-bas font ce travail-là, que dans leur Torah, il y a toujours cet aspect qui dit Quelle la Torah te dit, remportez-vous, mais il y a quand même une direction.
Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que c'est l'inverse qui se passe. On garde et on maintient les gens dans la Torah, peut-être, encore, regardez combien il y en a, pas beaucoup, et on ne parle pas du tout, ou très peu, de la situation. Ce n'est pas du tout le sujet, ce n'est pas du tout important. Donc, ce n'est pas important. C'est banal, c'est banal. Alors, comment tu veux parler à la génération si toi-même, tu ne donnes pas le message? Qu'est-ce que tu vas dire pendant la paracha des Meraglim à ta communauté à Marseille? Qu'est-ce que tu vas leur dire?
Les
badales! Les
badales!
Exactement. Alors, il y a une fois, j'ai raconté à la fin du cours dernier, mais je ne sais pas si j'ai dit un de vous qui m'a posé la question. Et une fois, j'étais à Nice, une vieille dame, à la fin du cours, c'est toi? À la fin du cours, elle vient, ça va, j'ai donné un cours. Et en fait, j'ai donné un cours au milieu d'Atsila. Et je ne savais pas qu'à la fin d'Atsila, ils avaient l'habitude d'avoir un rav de l'endroit même, qui venait donner un cours, une conférence. Alors, j'étais dans une période d'été, je ne m'en sais plus quelle fête c'était, donc c'est très facile pour la Alia, mais ça parle de ça. Et donc, dans la paracha, toute la paracha parlait du retour, de la place, du peuple, sur la terre, et ainsi de suite. Donc, j'ai développé un petit peu le thème. Et je ne me rappelle plus quelle paracha, peu importe. Et donc, j'ai dit, le problème, c'est que vous allez avoir un rab qui va venir à la fin de la fila, enfin, voilà, et qui va vous donner un cours sur un petit détail qu'il aura trouvé dans la paracha. Je ne sais pas moi comment mettre ce qu'il dit. C'est important. Mais il va trouver ça. Il ne va pas développer le thème de la paracha. Moralité. Donc j'ai fini mon cours. À la fin du cours, il aura varié. Et il commence à parler.
Aujourd'hui, on a parlé d'une histoire très importante
dans la paracha. Tiens, moi, je me souviens, il a parlé d'Israël quand même.
De la mine des Tfilin.
Tous les gens qui m'ont regardé, ils étaient tous comme ça.
C'est un
En réalité, c'est une prophétie. C'est tout simplement parce que c'est ça l'attitude qui est prise là-bas. Je prends un truc, un détail de la paracha, avec toute l'importance que je respecte. Je suis pas à côté du message. Et donc, ça ne parle pas du tout. Et donc, le rab, il ne comprenait pas pourquoi tout le monde était comme ça. Tout le monde rigolait. Bien. Et c'est tout. Et c'est un problème. Et à la fin, une vieille dame vient me dit, monsieur, comment ça se fait que les gens que nous avons ici ne parlent pas comme vous? Je lui ai répondu tout simplement parce que tous ceux qui parlent comme moi, ils sont déjà là-bas. C'est tout, ils sont déjà partis. Il y a plein d'or, tu as raison. Ça aussi, c'est développé comme thème par les gens qui sont contre. Mais il faut savoir répondre aussi. Il faut savoir toujours ramener les choses au niveau de la base. Quand tu as une base, tu n'as pas besoin de parler tout le temps d'Israël. Le problème, c'est que là-bas, il n'y a pas d'Israël. Donc tu es obligé de donner. Non, toi aussi, tu es ici. Est-ce que tu as compris l'importance de la notion du peuple, du dévoilement de Dieu au niveau peuple, et que le peuple ne peut pas se réaliser que s'il est sur sa terre? Comment tu peux le savoir, ça? Parce qu'on donne des cours concernant ça. Des cours de Emouna, parce que tu es dans un endroit où on développe ce sujet. Mais tu as plein de yeshivot, même ici, où on ne développe pas ce sujet, on va te développer un sujet de Torah, de mitzvot, et on ne va pas t'enseigner ni Emouna, ni rien. Mais pourquoi ils sont ici? Ils n'ont pas la notion ni du peuple dans son entité, et pourtant ils vivent là. Alors comment tu peux savoir?
La majorité des juifs, ça va. Moi, je parle pour la majorité. Le principal, c'est de pratiquer la Torah et de faire les parties d'Israël.
C'est ça.
Alors ça, c'était la deuxième réponse. Là où tu enseignes la Torah, ta synagogue, c'est un ministre, c'est une ambassade. Donc en fait, c'est dans l'ambassade d'Israël. Donc il reste au maximum dans la synagogue, il passe d'une synagogue à la yeshiva. Okay. En passant par la pourriture au milieu, okay. Parce qu'il va traverser la rue en bas. Okay. Avec tous les panneaux, l'affichage, les bigards, les pourritures, les machins, etc. Okay. Mais c'est pas grave, tu vas de la yeshiva là-bas, et tu rases les rues. Okay. C'est ça qui se passe.
Je suis obligé de passer par un métro pourri avec des insultes, des gens qui parlent, la pourriture, la touma, la galoute, la pluie, galoutique. Mais c'est passé d'un ciel à un autre ciel.
Mais non, il y a
des gens. Je ne parle pas de ça, je ne parle pas des gens, je parle de la terre. La terre d'Israël, elle a été douce intrinsèque. C'est ça que la Kedusha de la Torah nous dit. La Torah nous dit que la terre d'Israël elle-même, par sa qualité, elle ne perd pas sa Kedusha.
Il y a certains juifs qui ont bien pensé que la terre d'Israël, mais ils n'ont pas les moyens de pouvoir partir.
C'est autre chose. Alors ça, c'est une troisième réponse. Il y a des gens qui vont te dire, je n'ai pas les moyens de partir. Je ne peux pas partir. Moi aussi, je parle des rêves. Je ne peux pas partir d'une communauté à garder ici, les gens sont perdus sans moi, je suis le capitaine du bateau. Prenez votre bateau, et toute votre communauté, vous êtes le capitaine, montez sur le bateau, faites monter les femmes et les enfants d'abord. C'est tout, mais vous êtes le capitaine, restez ici si vous avez envie. Et envoyez-les là-bas. C'est des convois pour partir là-bas. C'est que j'ai besoin de maintenir une communauté. Et un de mes rabbinim, entre guillemets, quel dans l'endroit où j'étais en France, je lui ai dit, Kvod Harav, avec tout le respect que j'ai pour vous, quel dans 10 ans vous allez être seul. Il m'a regardé, il m'a dit, pourquoi tu me dis ça? Il m'a dit, parce que c'est l'avenir. Qui vous le dira, vous allez voir. Et effectivement, 10 ans après, il était seul. Mais il a 3 élèves, 4 élèves, un truc de paumé, n'importe quoi. Et quand je le vois maintenant, il me dit, vous rappelez ce que je vous disais? Voilà, vous êtes là-bas, vous avez une communauté de 3 pelés, 500 vues. Vous êtes en train de courir les rues pour faire une lien. Quand on rentre dans la étude, on dirait que tu rentres dans le grand chemin. C'est bien. La silence est mort. C'est mort, c'est mort. Mais regarde, ça fait vider. Tu rentres dans la synagogue, des grandes synagogues, hein. Il n'y a plus personne, il n'y a plus personne. Il reste 2-3 grandes communautés en France. Il reste Paris, Caen, Marseille, et en même temps, c'est en train de se diviser de plus en plus. Et Lyon, pas même pas, Villeurbanne. Villeurbanne, pas Lyon, Lyon c'est Wallo. C'est en train de se vider, ça devient des musées, les synagogues. J'ai dit Paris, mais même ça, c'est en train de se vider, c'est plus le même. Rendez-vous synagogue, quelle est la moyenne d'âge en France? 75 ans. Alors, c'est fini, dans la pluie. C'est moi qui te pose la question, que tu ramènes ma propre question. Alors où c'est votre à partir? C'est ce que tu es en train de dire. C'est moi qui te pose la question. Et c'est la vérité, pousse les gens à partir. Non, ça c'est que moi. Le texte aussi, c'est moi qui l'ai écrit. Mais je ne vais pas poser cette question là-bas dans le texte. Même s'ils ne partent pas eux, tu dois rester. Dis à ta communauté de partir, moi je reste pour rassembler encore d'autres. Mais voilà. Au moins, pousse les autres à partir. C'est bon, vous avez encore une question sur ce sujet ou en avant? C'est un sujet qui est délicat, je sais que c'est un nerf brillant. Les gens qui ont bâti leur système juif sur ce sujet-là, ils ne supportent pas ce genre de...
Encore une fois, je peux en France,
la c'est pas grave, moi je dis, je lance une grenade et après je m'en vais. Et ils débrouillent avec, c'est quoi?
Je me suis dit, on disait que c'est un homme, c'était
le bâton d'être la galoute, en fait. Une fois que tu es dans la galoute, c'est un musée. Est-ce que tu es déjà rentré dans une grande synagogue en France, les grandes, les immenses, où on prie dedans? Non. Il y a toujours un petit salle à côté. Un petit salle à côté où on fait tout ce qu'il y a. On ne rentre jamais dans la grande synagogue. C'est déjà un musée, maintenant. Elle pour allumer les lumières et le chauffage, c'est tout devant ce que c'est. C'est-à-dire, oh là, quoi, les grandes familles de personnes, ils sont où les familles? Il n'y a rien.
C'est ça qu'il y a
de l'envie. J'étais à Amsterdam il y a 3 mois.
crois-moi, j'étais à Amsterdam, je suis rentré dans la synagogue portugaise de Amsterdam, tu la connais? Il y a encore des bougies derrière, des endroits pour mettre les bougies, pour lire. Les gens disent avec les bougies. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est des goïnes qui rentrent, ils leur mettent des petites clipotes en carton. Ils sont là avec des caméras. Mais comment ils font ça? Mais comme partout, c'est des musées. Que vous croyez qu'ils inventent des mots? C'est des musées qui payent 20 francs, 20 euros pour entrer dans le musée. Ça s'appelle la synagogue, c'est ça. Et le mec, il s'explique dans un grand vide comme ça où tu entends l'écho. Alors ici, regardez, c'est toi qui pleures, moi j'étais là aussi, je dis bon, non, c'est Lola, je suis en train de voir ça, j'ai envie de mourir, quoi. Rien, le bois, il y a 200 ans. Alors, ce qui me fait peur, ce qui me fait de la peine, c'est pas que j'ai vu cette synagogue, au contraire, d'avoir vu la synagogue sans résoudre. Je me suis dit, il n'y a plus personne, ils sont tous là-bas. Mais ce qui me fait le plus de peine, c'est le maître. De continuer, de mettre qui essaye de porter pour faire la communauté, on va renforcer, on va construire encore. Et c'est juste qu'on une nouvelle synagogue, c'est la nouvelle vie du Pôle Nord. Il y en a qui vivent dans le passé. Et quel stress sur le futur. Ici, la moyenne d'âge, je ne sais pas si vous le savez, c'est 18 ans.
Ouais.
Vous savez ce que c'est, une moyenne d'âge de 18 ans, bien là. La moyenne d'âge en Europe, c'est 70 ans. Mais c'est grave. C'est pas ça, 18 ans. Il y a beaucoup de jeunes. Vous êtes déjà en plus de plus que la moyenne d'âge. C'est extraordinaire, bien là. 20 ans. Bon, oh, c'est bien. Et tous les jeunes vont où? Ils quittent l'Europe. Au moins, même pour aller aux États-Unis, peut-être. Non. Ils sont en train de quitter l'Europe. Ils viennent en Israël. Donc on voit bien que ça se dit. Ouais, Il n'y a pas de problème, ils sont sortis de l'armée, ils ont une pièce comme un ballon, puis ils ont envie de faire un petit tour. Fais-leur un petit tour. Tu vas faire un tour. De toute façon, tu ne peux jamais forcer un homme à faire quelque chose de contre lui-même. Donc il faut qu'il choisisse lui-même de revenir. Si tu vis ici de force, tu n'aimes pas l'endroit où tu vis, ça ne sert à rien. Tu cherches la spiritualité et le tout ce que tu veux. Alors, il faut forcer aussi à trouver des rabbins ici, sans t'as pas de donner ça ici, sans aller en Inde.
Il y a un homme qui est en retard, qui envoie leur famille, femme et enfant, et sans aller en Turquie.
Oui, c'est très cool. Femme et les enfants d'abord, comme dans le bateau. Qu'est-ce que capitaine d'un bateau? Vous êtes capitaine d'un bateau. Ok, il y a encore d'autres questions sur le sujet? Oui, ou on continue? On a encore 10 minutes.
Comment on peut faire venir tout le monde et qu'on arrête de faire le résultat? Il y a une grande communauté qui veut rester en France, non, pour respecter leur foi. Et si on fait des synagogues, c'est pour pas qu'il y ait
Tu as entièrement raison. Alors, on va faire avec des comptes, des calculs. Statistiques. C'est simple, statistiques. Combien de juifs? En pourcentage, je ne donne pas maintenant des chiffres, en pourcentage, combien de juifs restent collés à une synagogue, à une communauté, et font les mitzvot et la Torah en France?
Justement,
en France,
à Paris,
il y a de plus en plus. En croissance. Ok? Alors, je vais te donner des nouvelles, tu es à côté de la place. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a 75% d'assimilation déjà. Donc en réalité, il serait 25%. C'est simple. Sur 100%, tu as déjà 25 types. Tu avais 100 mecs. 75%, c'était déjà des gros.
il te reste 25% qui sont juifs. Sur ces 25%, combien vont dans une école juive? Hein? 15% des 25 qui restent, ça fait combien? Combien de personnes ça fait? Hein? Ça fait 3. 3 sur 25 personnes. C'est à 10%, on va dire. Et combien ça fait de personnes qui vont dans les écoles juives? 3. Sur ces 3 qui vont dans une école juive, combien sont véritablement au niveau de la Torah? Parce qu'il y a plein de gens qui sont dans les écoles juives, ils ne sont pas dans la Torah, mais ils envoient leurs enfants parce qu'ils ont peur de tout. Ils ne sont pas dans la Torah. Tu ne peux même pas les reconnaître juifs dans la rue, sauf si tu peux bien comme ça. Combien il te reste? 1,5? 0,2? Plus rien. Comprenez que quand tu vois dans une école qu'il y a 1500 élèves dans tout Paris, dans des écoles juives, ou 2000 élèves, c'est rien par rapport à tout ce qui se passe. Tu as perdu déjà 75% de ton peuple. Qu'est-ce que tu es en train de jouer avec des clopinettes? Alors c'est vrai, il y a de la demande, il n'y a pas assez, on ouvre encore des écoles, mais tu vois bien que le bateau tout entier, il est en train de couler. J'étais dans une communauté à Paris. Malakoff. Malakoff. Machin là, Montrouge. Montrouge. J'étais là-bas à Shabbat. J'aurais dit, quand ils m'ont fait un repas, j'avais toute la communauté dans la synagogue et j'avais donné des cours comme ça pendant tout le Shabbat, un jour de séminaire. Alors j'étais avec eux, je dis, vous me faites penser à un film. Je me dis, ah bon, lequel? Je dis, le Titanic. Pourquoi? Parce que vous êtes ici, il y a les beaux repas, il y a le chrétien, tout le monde chante, il y a le mec qui joue, la musique,
tout le monde coule. Vous êtes dans un bateau qui coule, mais de quoi vous parlez?
Les gens, ça les énerve, les mecs qui viennent là-bas, en plus, ils leur disent, c'est comme ça. Mais c'est tout le genre, la Torah, c'est une vérité, c'est obligé de dire ce que je reprends tout le temps, je ne peux pas me déguiser. Moi, j'ai pas envie de rendre des comptes devant Dieu en leur disant, ouais, on t'a envoyé ça à cette communauté, tu ne l'auras pas vu. Moi, je dis. Je dis avec gentillesse, je vous dis parce que je vous aime, mais le bateau est en train de couler.
Il n'y a pas une idée de la vie d'ambassade dans le sens qui crée une
communauté. Encore une fois, avec des gens, avec des gens qui viennent d'ici, qui ont compris le message, qui sont là-bas, mais qui ont dit avec
témoignage.
C'est le seul chose qui reste à faire, c'est tout.
C'est le
seul projet qui doit faire. Après, si tu fais ça, ça va durer encore 10 ans. Dans 10 ans, il n'y a plus personne.
Vous avez acheté,
vous combien de juifs en France? Combien il y a?
Ouais.
Non, mais je ne l'achète pas. 400 000. Il y avait 700 000 il y a 10 ans. 400 000. Sur ces 400 000, il y a qui sont à peu près, hein, comme ça on fait le compte, hein, mais recensés dans les communautés, il y a à peu près 150 000, 200 000. C'est rien. Les autres sont en train de se perdre. Il faut comprendre ça. En Amérique, la même chose, pire encore. J'étais à New York dans une synagogue un vendredi soir, il y a toute la synagogue, il y a 1500 personnes. Je me suis dit, waouh, quel fille! Quand la filiale commence, il y avait les hommes et les femmes tous ensemble, et tout le monde faisait comme ça. Alors on a chanté avec eux. Je leur ai dit, c'est quoi le pourcentage de juifs ici? Je sais pas, 10%. 10%. C'est des goïs, sympathisants d'Israël. Tout est mélangé. Les mecs s'appellent Cohen, il est marié déjà avec trois goyos. Il y a des enfants qui s'appellent Cohen, c'est plus de Cohen. Le mec qui s'appelle des juifs, il y a des non-juifs, il n'y a même pas des juifs. T'as plus rien. T'as des cousins en France, toi? Ken, t'as pas des petits cousins d'Oeil? Non? T'as de la chance. Ken, il y a eu de partout, dans ta famille. C'est pas péjoratif ce que je suis en train de dire. Il n'y a rien dans le goy. Mais seulement, c'est pas mon identité, c'est tout. Le goy, je le respecte en tant que goy. Je l'aime en tant que goy. J'ai des amis goy, j'aime les amis goy. Il
n'y
a pas de problème avec eux. Alors, il y a eu une période où on était là-bas, on devait ramener des étincelles de là-bas. Mais il faut comprendre aussi quand est-ce que le temps est terminé. Quand est-ce qu'il faut rentrer à la maison. C'est, moi, j'ai reçu de l'ambassade d'Israël, c'est ma période religieuse. Hein. Quand j'étais à Nice, j'ai reçu un temps pour renouveler mon passeport, parce que je suis israélien. Alors, ils m'ont renouvelé mon passeport, ils m'ont envoyé un Sanatova comme ça avant, comme ça à la période de maintenant. Il y avait un grand Magen David, c'est le drapeau d'Israël, qui doit venir refaire son passeport. Alors, j'ai ouvert la Sanatova, et il y avait marqué Sanatova, il est grand temps de rentrer à la maison. Okay. Et je me suis senti morveux là-bas. Qu'est-ce que c'est ici? J'en rêve, qu'est-ce que c'est ici? Maintenant, ça m'a mis une gifle. On rentre à la maison, quand c'est l'ambassade d'Israël qui m'a fait réveiller. Mine religieuse. Alors il y a un travail qui est en train de se faire. Bah, le peuple se réveille, il y a une alia qui est en train d'augmenter. Il y a des conversions de à l'islam, c'est un enfant. Vous savez que c'est terrible, cet enfant. C'est de la folie, hein. La pierre est en train de manger le bois. Gravissime. Vous savez combien d'églises il y a à Roissy, de mosquées? Des mosquées. 52 mosquées. Dans l'aéroport de France. Il y a un journal qui est sorti en France. Les églises, les mosquées de Roissy, ça c'était en gros. 52 mosquées. Alors bon, c'est pas. Ils sont fermés. Ils ont fermé, ils rouvrent. C'est des tapis, des machins, des mecs dans le plus là-bas. Il y a même pas une synagogue, hein, entre guillemets. J'étais là-bas pour chercher le Saramida entre deux avions. Je ne savais pas où il était le Mizra. Alors il y avait sur le mur quelqu'un qui a gravé un Mizra avec un seul. Et on va le pleurer. Et même pas si vous voulez le dire, il y a un seul sur sa blanche. Il faut comprendre que c'est dur, c'est très dur. Et à quel point que les gens sont traumatisés. Et la dernière fois, on était à l'hôtel, vous connaissez le Dan Pearl, en face du hôtel. Qui fait le coin de la rue, King David. Donc, c'est en face du hôtel, donc on priait. On priait, il y avait un mariage, on faisait une fin avant le mariage. Et le père de la Kala, celui qui faisait la Kila. Et juste avant la Kila, il faut nous faire de quel côté. Tout le monde le regarde, il est trop sympa.
Très près du côté.
Le mec il oublie vers où on s'en prie, vous comprenez? Alors il fait ses directions dans la pièce. Le mec en fait, une prise de conscience de qu'on est rentré à la maison. Il faut remercier Dieu. C'est un choix, c'est manger de l'intérieur, c'est trop tard déjà. C'est fini. Donc les Amisraël doivent savoir ce qu'il a à faire. Et bon, c'est une idée. Et vous devenez des représentants, vous avez le devoir de l'être. Quand vous allez en France en vacances pour voir vos proches, je ne sais pas quoi, il faut que vous donniez des cours là-bas. Il faut organiser un petit cours dans un endroit. Il faut expliquer les choses, il faut parler aux gens, il faut réveiller les consciences. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a la fin. Vous n'avez pas le droit de quitter avec Israël si ce n'est pas pour ça. Donc, c'est une des trois choses qu'on a appris au fait. L'argent, mais si vous n'allez pas pour travailler, à moins que. Donc, vous êtes obligé au moins de rapporter un devoir pour un.
C'est pas vraiment le problème de notre ambassadeur. Il est posé par la famille de Frédéric. Le point de l'État d'Israël, il y a le plan d'Israël, la commission de Dieu, il y a l'État d'Israël qui aujourd'hui n'est pas du tout en
train de. C'est pas grave. Il faut expliquer. Je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais il faut faire comprendre que la valeur nationale n'est pas moindre que la valeur religieuse. Je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire à celui à qui tu parles, je vais m'aider, j'ai besoin d'un comme toi pour renforcer le côté de la spiritualité sur notre terre. C'est tout. Aide-moi. J'ai besoin de toi.
Je ne viens pas pour vous casser du sucre sur la tête, je ne viens pas pour vous casser, ce n'est pas mon intérêt, j'ai besoin de vous. On a besoin de vous, là-bas, vous êtes en train de donner vos forces dans un pays qui vous est étranger. C'est dommage, venez donner vos forces là-bas. C'est tout ce que je dis. Alors aide-moi, je suis au courant que j'ai beaucoup de problèmes en Israël. Je ne suis pas un aveugle, je ne suis pas un soula. Il y a plein de problèmes ici. Mais on est dans notre peuple en train de régler ces problèmes petit à petit.
On est entre nous.
Entre nous, ça fait partie de nos efforts, de notre participation, de notre association avec Dieu pour arranger tout ça.
Moi, par exemple, c'est bien l'Israël, c'est bien
t'as entendu, t'as entendu.
Parce que moi, je pensais que c'est très fort, très pertinent ce que j'ai là-bas. On me dit, c'est clair.
Que je déporte cette discussion à haute scène. Les gens dans les séminaires peuvent vous poser une question. Qu'est-ce que tu viens de regarder les problèmes que vous avez là-bas. Tiens, alors tu diras, ouais, sans les gens, finalement, trop lourd. Il y en a dans une heure, moi. Et non. Non. Je continue, je leur dis, oui, mais justement, je vais vous expliquer comment ça se passe. Je vais vous expliquer les yeux qu'il faut avoir pour voir dans ce pays. Pas avec les yeux que tu es en train de me développer maintenant. Et il y a d'autres niveaux de compréhension.
Que la